Chères auditrices, chers auditeurs, chers amis, bonjour, je suis Paul Webel et j'ai l'honneur de vous présenter ce volet du podcast Le goût du Moyen-Âge, le podcast des médiévistes. J'ai le plaisir pour ce volet d'accueillir trois participants, Madame Sarah Massonnerie, Monsieur Alexis Minot et Monsieur Samuel Perret, qui vont nous parler tour à tour de leurs mémoires respectives.
Bonjour à tous, je vais donc vous parler de mon mémoire qui se porte sur la représentation de Bethsabée Aubin dans les manuscrits enluminés du XIIIe au XVe siècle. Avant tout, Bethsabée, c'est une figure biblique qui apparaît pour la première fois dans le livre 2 de Samuel au chapitre 11. La scène porte sur David qui voit Bethsabée prendre un bain purificateur. Il tombe sous son charme et la fait venir à son palais. Le passage biblique, lui, comporte très peu de descriptions, laissant un champ large d'expressions au créateur d'images. Malgré cette liberté, on remarque une tradition iconographique apparaître à partir du XIVe siècle, en lien notamment avec l'émergence de sa représentation dans les livres d'heures. En effet, lorsqu'elle apparaît dans les manuscrits, Bethsabée, c'est autour du XIIe, XIIIe siècle, principalement dans les psautiers ou des bibles moralisées. Elle y est dépeinte comme la victime du regard de David. Elle cache son corps avec ses bras, essaye de se dérober du regard de David. L'exemple parfait, c'est le folio 85 du manuscrit conservé à la BNF, le latin 105-25, réalisé en 1270 à la fin donc du XIIIe siècle. Il s'agit d'un psautier également appelé psautier dit de Saint-Louis. Dans la boucle supérieure du Beatus Buir, on voit David à la fenêtre de sa demeure qui regarde Bethsabée qui, elle, est entourée de ses servantes. Bethsabée cache son corps avec ses bras en attendant de mettre le linge que tend sa servante. La porte située en dessous de David est ouverte et montre les mauvaises intentions de ce dernier envers Bethsabée. Bethsabée est donc bien la victime dans cette enluminure et non la coupable. C'est à partir du XIVe siècle que Bethsabée est peinte majoritairement dans les livres d'heures. Il s'agit de petits manuscrits personnels que l'on peut emmener partout avec soi. On peut y voir une tradition visuelle qui apparaît dans ces livres d'heures. En effet, la majorité des enluminures reprennent les mêmes codes pour représenter cette scène. Bethsabée est nue, debout dans l'eau d'une fontaine ou d'une rivière, dans un jardin clos. David est de moins en moins présent, et lorsqu'il est présent, il apparaît à la fenêtre de son palais, accompagné ou non. Quant à Bethsabée, elle est majoritairement au premier plan. On ne peut échapper à sa beauté. Elle se trouve majoritairement en pleine page, avant les psaumes pénitentiels. Bethsabée est ici dépeinte comme séductrice, attirant David, mais aussi nous, le spectateur de cette enluminure. On peut prendre comme exemple le manuscrit H1 de la Morgan Library à New York, réalisé au XVe siècle. Au folio 57, on retrouve Bethsabée qui se baigne dans une mare, entourée d'arbres fruitiers. Face à nous, avec sa main droite, elle cache son pubis, mais elle ne nous regarde pas. Ses yeux, eux, nous invitent à voir David qui la regarde, qui est accompagné de ses suivants. Elle est donc consciente de sa présence et nous le montre. Il s'agit d'un exemple parmi de nombreux qui possèdent les mêmes codes, étant donné que mon corpus comporte à peu près 98 enluminures et que cette représentation représente les trois quarts de mon corpus. Donc évidemment, certaines enluminures échappent à cette tradition et on peut retrouver Bethsabée habillée, prenant un bain de pied, comme dans le manuscrit 1080 de la Morgan Library, réalisé à la fin du XVe siècle, au folio 85, on retrouve Bethsabée assise au bord d'une rivière, les pieds dans l'eau. Elle est vêtue d'une robe. Ses yeux, eux, nous regardent. David est bien présent dans l'image, au centre de cette dernière, et désigne Bethsabée du doigt. On peut également retrouver Bethsabée dans les marges des manuscrits, C'est le cas dans le manuscrit 463 de la Morgan Library à New York, réalisé également à la fin du XVe siècle, au folio 57. On retrouve dans ce bréviaire David portant un chapeau. Il tient dans sa main droite une épée et tend la main gauche. Il regarde vers une femme nue, Bethsabée, qui, elle, est debout sous la canopée de la piscine, à côté d'une cruche. On peut donc voir une évolution à travers les siècles, que ce soit dans le type du manuscrit et dans la représentation de Bethsabée, qui, elle, passe de victime à séductrice.
Merci Sarah pour ta superbe présentation. J'ai pour toi donc plusieurs questions. Tu l'as dit, donc dans les images, Bethsabée est une figure ambivalente, à la fois victime, mais aussi séductrice. Est-ce que tu sais ce qu'en disent les textes exégétiques ?
Eh bien, les auteurs, que ce soit Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone ou même Isidore de Séville, sont plutôt d'accord sur l'idée que Bethsabée est une figure positive. En effet, cette dernière serait une préfiguration de l'Ecclésia, donc de l'Église sainte. David, quant à lui, est le Christ qui la convoite par sa beauté et qui finira par la récupérer des mains de Satan, qui donc est une figure représentée par Uri, le mari de Bethsabée, qui lui se fera tuer par les ordres de David. Donc rien de négatif, bien au contraire, et ses auteurs s'accordent également sur le fait que David est le seul coupable du péché. Ce qui est totalement l'opposé dans les images, comme on peut le voir, où on voit totalement Bethsabée séductrice et active dans le péché.
Merci beaucoup. Est-ce que tu connais d'autres scènes de bains et pieds ?
On peut en citer d'autres dans la Bible, comme celui de Suzanne et les vieillards, ou bien dans la littérature avec Mélusine et Raymondin, ou Heuriot dans le roman de la Violette. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que les hommes subissent le même sort. Soit ils perdent la femme, soit ils meurent, soit David perd son fils. Dans tous les cas, il arrive malheur aux hommes qui épient les femmes au bain.
Effectivement, c'est étrange. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu as autant de représentations dans les livres d'heures ?
Eh bien, deux hypothèses apparaissent. Il peut s'agir d'une image afin de sensibiliser les spectateurs avant les psaumes pénitentiels, vu qu'elle préside ces psaumes. Ou bien il s'agirait plutôt d'un prétexte pour représenter une femme nue, étant donné qu'un sujet biblique passe toujours mieux pour représenter ce genre de figure. Les deux hypothèses sont valables et peuvent être plus ou moins démontrées chacune à leur manière. Ce seraient les deux hypothèses principales pour cette représentation.
Merci beaucoup. Et donc pour finir, donc j'ai une dernière question. Est-ce que tu as d'autres enluminures de Bethsabée en dehors de son bain ?
On peut retrouver Bethsabée accompagnée de Salomon un peu plus tard, mais cette fois-ci, elle est vraiment la figure de mère et de sage qui conseille son fils afin d'accéder au trône. Donc, totalement une autre image d'elle que cette séductrice qui envoie David au péché. Là, cette fois-ci, elle est vraiment au rôle de conseillère, de mère sage, telle la Vierge Marie aurait pu être pour le Christ.
Merci infiniment, Sarah.
J'ai un jour entendu que les mots étaient des cuillères désargentées qui sont passées dans toutes les bouches. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a peut-être un peu de cela avec l'expression Moyen-Âge, que chacun y étant allé de sa phrase n'en reste qu'un fastueux fatras de faconde, de fallacieuses formules finement forgées, la pente fatale, en somme. Quel goût a pour moi le Moyen-Âge ? Je parlais de forge, je n'en suis pas si loin. Mon goût, pour l'époque médiévale, trouve justement sa source dans la pratique de l'épée et de l'escrime ancienne, à laquelle je me consacre depuis plusieurs années. Diplômé d'histoire de l'art et de littérature, je me suis tout naturellement dirigé vers un médium mêlant ces deux aspects. Je travaille ainsi sur des manuscrits médiévaux, produits en Occident entre le XIIIe et le XIVe siècle. La pratique de l'épée dans les enluminures, quelle qu'en soit la période, a fait l'objet de nombreux travaux. Toutefois, la question du duel dans les marges des manuscrits, elle, a été totalement ignorée. C'est ainsi que je me suis intéressé à l'étude du duel à l'épée dans les marginalia, ces dessins drôlatiques peuplant les marges des manuscrits médiévaux. Ces affrontements dessinent en périphérie du texte et de son illustration un véritable imaginaire. Il s'agit pour moi de comprendre et de restituer les enjeux de ce système de représentation, c'est-à-dire la manière dont ces images procèdent d'un paradigme de pensée, ainsi que la façon dont ces images structurent à leur tour cette pensée. Le succès d'une telle enquête repose sur une méthode rigoureuse constituée de deux aspects. Le premier, analytique, consiste en l'étude sérielle des images. Elle permet de mettre en évidence des archétypes, mais aussi d'observer les continuités, les variations, voire les ruptures du traitement visuel de ces duels. Le second aspect de cette méthode tient quant à lui de l'histoire du geste. La bonne compréhension des marginalia dépend pour beaucoup de notre connaissance des realia, c'est-à-dire des choses leur correspondant. L'enseignement de l'escrime médiévale constituant une tradition interrompue, je m'efforce donc de me familiariser avec le maniement des armes concernées par mon travail. Et ce, afin de saisir au mieux les enjeux de ces représentations. Ceci passe d'une part par l'étude des livres de combat et autres traités d'escrime, dont nous conservons des témoins dès le XIVe siècle, et d'autre part par la pratique, voire de l'enseignement de l'escrime ancienne. Le duel à l'épée se décline dans les marges de bien des façons. La plus connue de nos auditeurs est certainement celle du combat entre chevaliers et escargots. Il s'agit du type d'affrontement sur lequel les chercheurs se sont le plus penchés, le seul à dire vrai. De facto, les propositions interprétatives abondent, tantôt envisagées comme la satire d'une aristocratie militaire agonisante, voire comme le portrait à charge et sans concession d'un peuple ayant alors mauvaise presse, les Lombards. Cet affrontement passe aussi pour la reddition de la virilité capitulant devant l'expression de la féminité. Qu'on en fasse une lecture laudative ou dépréciative, il apparaît clairement que l'escargot, dans le contexte des duels dérisoires, n'est pas un signe à la signification univoque. Intrinsèquement polysémique, la présence du limaçon en cette lisse licencieuse n'est guère surprenante. Les marges des manuscrits sont le lieu par excellence de la transformation d'une tradition visuelle. Véritable avatar de l'hybridation sémantique, l'escargot participe de cet enrichissement, de cette densification du sens. Mais il ne s'agit pas du combat le plus représenté dans les manuscrits, loin de là. Il y abonde plutôt des duels d'ordre civil. Les combattants sont plus généralement armés d'une épée et d'un bocle, un petit bouclier rond. Mes recherches m'ont permis d'établir une corrélation très claire entre ces images de marge et celles d'un traité d'escrime de la première moitié du XIVe siècle, aujourd'hui conservé au Royal Armouries de Leeds, le manuscrit 1.33. Rendez-vous compte, on trouve dans ce traité et dans les marges les exactes mêmes postures, les mêmes gardes et parfois les mêmes techniques. Pour l'heure, j'ai été en mesure d'établir l'existence plus que probable d'un manuscrit plus ancien traitant de l'escrime au bocle et qui aurait disparu. Un manuscrit que connaissaient aussi bien les concepteurs d'images ayant œuvré sur les marginalia que ceux à l'origine du traité 1.33 de Leeds. Ce dernier étant le plus ancien traité de combat à nous être parvenu, être en mesure d'identifier la nature exacte de ce manuscrit antérieur nous renseignerait grandement sur la culture médiévale et plus particulièrement sur la manière dont se côtoyaient tradition martiale et tradition visuelle.
Merci beaucoup Alexis pour ta présentation passionnante. Tu as parlé de livres de combat, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Bien sûr, les livres de combat constituent un type très particulier de manuscrits et plus à proprement parler de traités. C'est un ensemble d'ouvrages, de volumes qui décrivent des techniques de combat, ceci allant de la manipulation d'une épée à celle d'une lance, en passant par tout un autre pan d'armement. On connaît deux traditions majeures, la tradition germanique et la tradition italienne, et le genre fait particulièrement florès à partir du XIVe siècle.
Merci beaucoup. Tu as aussi parlé d'affrontements de type civil. Qu'est-ce que tu entends par là ? Est-ce qu'on ne pratiquait pas la même escrime en toutes circonstances ?
Alors, au risque d'enfoncer une porte ouverte, et bien que ce serait bien arrangeant, hélas, non. La pratique de l'escrime et le combat en général est avant tout une affaire de contexte. L'escrime des champs de bataille n'avait pour ainsi dire rien à voir, ou du moins très peu, avec la pratique du duel judiciaire, ou plus encore, d'une pratique citadine, civile, dans l'enceinte de la cité de l'escrime. Dans le cas qui nous occupe, la plupart de mes combattants dans les marges ne portent absolument pas d'armure. Celle-ci est réservée au chevalier, lequel affronte précisément l'escargot ou, dans certaines représentations, un mort hybride. Les combattants utilisant une épée et un bocle sont au contraire en tenue civile, une distinction qui existe précisément en escrime allemande entre Bloßfechten, le combat en habit civil, et Larnischfechten, le combat en armure.
Merci beaucoup. Tu dois donc établir un rapport intéressant entre les marges des manuscrits et ce traité d'escrime. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Bien sûr. Le manuscrit 1.33 de Leeds, qui est composé aux alentours de 1320-1340, voit tout d'abord s'affronter des protagonistes particulièrement particuliers, c'est le cas de le dire, et surtout très reconnaissables, parfaitement atypiques, puisqu'il s'agit d'un clerc, qu'il soit chanoine ou moine, et de son élève. Et plus encore, ces combattants sont vêtus, ou du moins présentent, un indice, un élément iconographique et visuel, là encore tout à fait reconnaissable, à savoir un gant blanc longiligne et pourvu au niveau de la manche d'une extrémité circulaire très reconnaissable. Eh bien, il se trouve que ce même gant, nous le voyons dans un ensemble de marginalia qui, eux, proviennent de manuscrits datés d'aux alentours de 1280 au plus tôt. Et ce qui permet d'établir avec certitude cette corrélation, c'est qu'un manuscrit datant du dernier quart du XVe siècle, qui est conservé à Cluny, le CL23842, et qui se présente comme un ensemble de techniques martiales, une compilation très nombreux savoirs issus de plusieurs traités de combat, présentent à son tour toujours les deux mêmes personnages, mais qui ne portent ce gant-là en particulier que lorsqu'ils vont pratiquer l'épée et le bocle, et non pas lorsqu'ils manipulent d'autres types d'armes.
Merci beaucoup. Et donc une dernière question pour terminer. Tu l'as dit, donc la pratique de l'épée a été sujette à de nombreux travaux. L'étude des combats à l'épée dans les marges un peu moins. Quelle poursuite tu penses donner à ton travail ?
Alors, suite à ce travail de mémoire, à ce travail de master, j'envisage de poursuivre avec une thèse de doctorat qui, cette fois, ne se contentera pas d'étudier le duel à l'épée entre les XIIIe et XIVe siècles, mais qui envisagera bien l'ensemble du combat dans la production marginale, cette fois du XIIIe au XVIe siècle, les marges manuscrites ne disparaissant nullement avec l'avènement de l'imprimerie.
Merci infiniment, Alexis.
Bonjour à tous. Je souhaite vous présenter, ici, le sujet de mes recherches, le Liber Cynthiarum. C'est un florilège biblique et patristique, écrit à la fin du VIIe siècle par le moine Défensor dans l'abbaye de Ligugé. Le florilège est un genre littéraire qui consiste en une compilation ordonnée de pièces choisies. Dans notre cas, il s'agit de sentences écrites dans la Bible et dans les écrits des pères de l'Église. Ces derniers sont un ensemble de docteurs de l'Église primitive ayant vécu avant le 8e siècle, dont les écrits sont la fondation de la foi chrétienne. Dans notre ouvrage, 17 sont cités, les plus importants étant Augustin d'Hippone, Grégoire le Grand et Isidore de Séville. Le Sévillan est d'ailleurs le plus récent des pères cités. Il décède en 636 de notre ère, ce qui nous aide à dater le Liber Cynthiarum comme étant un manuscrit de la fin du 7e siècle. Pourquoi me suis-je intéressé au Liber Cynthiarum et pourquoi aujourd'hui je compte vous présenter des aspects de son prologue ? Ce qui m'intéresse, c'est la particularité de l'œuvre de Défensor qui nous laisse énormément d'informations au sujet de l'œuvre entière. Tout d'abord, parce qu'il présente plusieurs aspects intéressants. Il en existe deux versions. Il existe une version longue et une version brève du prologue. Il y est mentionné trois noms propres, Ursinus, Coenobio Locutiansince, Martini Sancti, et Défensor. Ce prologue explique également le choix du titre de l'opuscule, Liber Cynthiarum, et les raisons pour lesquelles son compilateur a rassemblé les sentences des pères. Enfin, chose étonnante, les manuscrits les plus récents qui conservent ce prologue datent du XIe siècle, soit trois siècles après l'époque estimée de sa rédaction. Mais revenons sur tous ces points. D'abord, les deux versions d'un même prologue. La version brève ne mentionne pas Ligugé et raccourcit la demande de prière finale. Pour le reste, elle rassemble ce qu'on pourrait considérer comme l'essentiel, la mention d'Ursin, l'explication de la métaphore du titre, les raisons qui poussent l'auteur à compiler les sentences des pères et la mention de Défensor se présentant comme le compilateur. Au regard, quand on regarde la version brève, elle semble avoir été faite en connaissance de la version longue, omettant volontairement certains passages jugés non utiles pour la compréhension de la lecture du Liber Cynthiarum, comme la mention de Ligugé et la demande de prière finale, qui ont peut-être été supprimées à des fins de place dans un manuscrit. Passons aux autres. D'abord Ursinus. Qualifié dans le texte comme étant le nutritor de l'auteur, il est rapproché d'un homonyme auquel est attribuée une version de la vie de Saint-Léger commentée par l'évêque de Poitiers, Ansolade. Le terme nutritor peut signifier ici, dans le contexte, père spirituel, ou au moins une idée de supériorité juridique ou morale. Elle montre que Défensor est un moine qui a reçu une éducation écrite importante, le terme nutritor allant dans ce sens. De plus, Ursin était lui-même assimilé à un rédacteur hagiographique. Nous aurions ici une démonstration de l'apprentissage effectué à Ligugé au 7e siècle en matière d'écriture. La locution désignant le monastère de Saint-Martin, Coenobio Locutiansinse Martini Sancti, regroupe avec étant regroupé avec les informations précédentes sur Ursin, nous permet de désigner Ligugé. On en déduit donc l'endroit auquel se rattache Défensor, l'abbaye de Saint-Martin à Ligugé, le plus ancien monastère d'Occident. Le dernier nom propre mentionné est Défensor, nom peu courant. Henri Rocher, ayant travaillé sur Liber Sanctiarum entre les années 40 et 70, n'a trouvé que deux autres mentions, et je ne l'ai pas trouvé dans tous les ouvrages, des noms de personnes sur le territoire de l'ancienne Gaule du 6e au 12e siècle de Marie-Thérèse Morlaix. On ne peut se poser la question de l'existence de cette personne. Au nom peu courant, une apparition dans les manuscrits du 11e siècle uniquement conservée en Italie, cependant, dans un florilège, on préfère souvent conserver la liste des chapitres et directement les sentences que le prologue d'un inconnu qui n'apporte aucune autorité au texte. Ce qui explique peut-être les différentes attributions du Liber Sanctiarum à Bède le Vénérable ou à Paterius dans les textes datant du 8e et du 9e siècle. Le titre « Livre d'étincelles » évoque l'idée que chaque sentence ou fragment de vérité divine trouvé dans l'ouvrage est comme une petite étincelle lumineuse. Ces fragments, bien que courts, sont remplis de sagesse et d'illumination spirituelle. Le compilateur a rassemblé ces étincelles de différentes sources pour offrir au lecteur un condensé de vérité essentielle, éclairant ainsi le chemin spirituel. C'est donc un recueil de pensées brillantes et inspirantes, destinées à éclairer et enrichir l'âme de ceux qui le contemplent. Défensor exprime dans ce texte les raisons d'être de sa compilation. Il effectue sa tâche à la demande d'Ursin et dédie l'ouvrage au monastère de Ligugé en les remerciant de son éducation. Plus intéressant, il énonce comme raison les difficultés de la lecture dans les textes des pères, en rapport avec le nom de l'œuvre. Il tire de la pensée prolixe des pères les phrases marquantes sur lesquelles méditer. Ainsi, le prologue de Défensor est une introduction complètement collée au Liber Sanctiarum, c'est ce qui nous permet de l'attribuer à Défensor et au Liber Sanctiarum. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Samuel pour ta présentation très enrichissante. J'ai pour toi plusieurs questions. La première, est-ce que tu as d'autres exemples de ce type de florilège, comme tu dis ?
Alors, pour l'époque médiévale, un certain nombre de florilèges ont été écrits. Pour le Haut Moyen-Âge, je pense tout de suite au florilège de Hégésius, de mémoire, qui est un auteur qui a compilé les écrits d'Augustin dans un florilège augustinien, qui, pour permettre la lecture plus facile des textes d'Augustin. Je sais aussi que les florilèges est un genre antique qui existait déjà sous la République romaine pour des aspects très juridiques. Les avocats ou les juristes romains utilisaient beaucoup ce genre de florilège pour trouver les citations afin d'écrire leurs fameux discours. On trouve même une utilité de ces florilèges dans les abbayes dans l'époque scolastique après le XIIe siècle.
Merci infiniment pour ta réponse. Tu as parlé de l'abbaye de Ligugé, que l'on connaît bien ici en Poitou. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle qu'elle a pu jouer dans la rédaction de ce manuscrit ?
Alors, dans le rôle à proprement parler, c'est compliqué. L'abbaye de Ligugé, c'est, comme j'ai précisé, le plus vieux monastère d'Occident, étant fondé supposément au cours du Ve siècle par Saint-Martin. Ensuite, le problème de Ligugé, c'est que nous n'avons pas de règles pour cette époque, puisque nous avons comme mention Saint-Martin comme abbé, puis il faut attendre plusieurs siècles pour avoir l'autre mention qui est Ursin, que j'ai présenté, et c'est la seule autre mention d'abbé que nous avons pour cette période, puis après nous avons une période blanche où l'abbaye est probablement détruite, et nous nous retrouvons ensuite à sa refondation aux alentours du XIIe siècle sous règle bénédictine. Mais au vu de la façon dont on formait un monastère, il est à parier que Saint-Martin y établit une règle de son cru, sûrement inspirée de la règle du maître et des autres règles de la tradition monastique, peut-être de celle de Benoît et surtout plus probablement celle d'Augustin, celle de Benoît étant moins diffusée avant Benoît d'Anienne.
Merci beaucoup. Et donc, pour finir, tu as parlé donc d'autorité de l'auteur dans ta présentation. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ?
Oui, effectivement, à l'époque médiévale, un auteur va parfois préférer placer ce qu'il a écrit sous une autorité plus grande que lui, donc pas de se nommer directement lui comme auteur, mais nommer plutôt Augustin, Basile de Césarée ou Bède le Vénérable, comme ça a été le cas pour les attributions du Liber Scientiarum, afin de placer ses écrits sous une autorité plus grande et leur laisser une plus grande dispersion.
Merci beaucoup, Sarah, Alexis, Samuel, pour vos présentations riches et passionnantes. Je vous remercie, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre écoute attentive et je vous souhaite à bientôt et à la prochaine pour un podcast Le goût du Moyen-Âge.